BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
De quoi je me mêle, deuxième partie. Merci d'être là. J'espère aussi que vous profitez peut-être de ce premier week-end à rallonge. La bonne nouvelle, c'est que ça continue la semaine prochaine. D'ailleurs, avec Anthony, on vous prépare un petit De quoi je me mêle exceptionnel la semaine prochaine avec un spécial. Je ne sais pas si je vous le dis ou si on garde la surprise. Qu'est-ce qu'on fait,
Anthony ? Ah, on peut garder la surprise, ouais, c'est bien. Non ?
Ah, je ne sais pas. Non, mais on vous en dit pas plus.
Ouais, non, on dit pas plus.
Bon, on est vache, hein. On est vache parce que voilà. Mais vous verrez, je pense que ça va vous intéresser et on va découvrir l'une des passions d'Anthony. Voilà, ça c'est un petit indice.
Bon indice.
On vous en dit pas plus. Anthony Morel qui est là, Nicolas Guyot, rédacteur en chef de Clubbing pour commenter l'actu. Et on va maintenant se plonger sur le Rabbit, ce petit appareil étonnant qui nous avait tous surpris durant le CES de Las Vegas. Alors, il n'avait pas été présenté pendant le CES, mais tout le monde en parlait parce que, en fait, les annonces étaient concomitantes. Finalement, petit appareil tout rouge avec un design un peu à la Play School, hein, un design un peu joué, je trouve.
Tamagotchi, un peu.
Voilà, avec un petit écran, etc. etc.
Une molette.
Quand même. Voilà, et non pas le fromage, hein, la mi-molette.
La mi-molette, c'est autre chose.
Oui, parce qu'il est orange aussi, d'ailleurs.
C'est vrai, la mi-molette est orange, en
plus. Bah oui,
et voilà, c'est ça.
Bonne dent, là.
Ouais.
Pour,
J'espère que l'appareil sera un peu meilleur, quand même, parce que bon, ça va être problématique. Et donc, ce produit qui est un petit produit élaboré par une start-up qui n'a pas énormément d'argent, vous savez, c'est toujours pareil, hein. Il y a une annonce, et puis après, il y a du crowdfunding, et puis après, il y a des batchs, comme on appelle, c'est-à-dire que dès qu'ils ont récolté l'argent nécessaire pour la fabrication d'une première série, ils en fabriquent une première série, etc., etc. Et là, on arrive au premier, on va dire, exemplaires du Rabbit qui sont utilisés.
Ouais.
Et alors, je te laisse vous raconter la
Si vous avez vu la tête de François, vous avez compris. Hein,
je te laisse raconter la suite.
Après la promesse,
puis,
la
vérité. Ouais, voilà. C'est exactement
voilà.
Ça.
Et puis Nico nous rajoutera la couche définitive.
Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, c'est ça l'expression ? Je ne sais plus, parce qu'effectivement, entre la promesse et la réalité, alors c'est vraiment same player shoot again après les Yaipin, en fait, dont on a beaucoup parlé, et même chose, il y avait une promesse extraordinaire sur vous allez voir ce petit gadget dopé à l'intelligence artificielle va vous changer la vie, vous allez interagir avec lui par la voix, par les gestes, vous n'aurez plus besoin de vous servir de votre smartphone, ça va être extraordinaire. Sur les iPins, ça a été une catastrophe. Sur le Rabbit, c'est une catastrophe aussi. Un peu moins catastrophique quand même que les iPins, en tout cas sur les critiques. Il y a des trucs qui fonctionnent, mais il y a quand même beaucoup de trucs qui ne fonctionnent pas du tout. Donc je rappelle le principe de ce petit jouet avec sa molette, c'est donc de remplacer les applications que vous avez sur votre smartphone. En gros, la promesse, c'est par exemple, plutôt que de commander un Uber en ouvrant l'application, en entrant sa destination, etc., je parle au Rabbit, je lui dis je suis à tel endroit. Il va vous géolocaliser et vous dites je veux aller à tel endroit, commande-moi un Uber, et le Uber est commandé et on n'a plus rien à faire. Extraordinaire. Enfin, vraiment, si la promesse est réalisée, c'est formidable. Sauf que, ça ne fonctionne pas vraiment en fait dans les faits, et c'est ce dont on pouvait malheureusement se douter. Les premiers testeurs qui ont pu mettre la main sur cet appareil et qui ont essayé de commander un Uber, le Uber il est jamais arrivé, ou il est arrivé pas du tout au bon endroit, à tel point que le mec qui l'a testé dit du coup j'ai sorti mon smartphone puis j'ai commandé mon Uber, du coup ça servait à rien d'acheter le Rabbit, quoi, c'était pas vraiment très intéressant. L'autonomie apparemment c'est catastrophique, enfin vraiment ça se dégrade extrêmement rapidement. Ça fonctionne pas très très bien globalement, et puis surtout on se rend compte que tout ce qu'il y a dans le Rabbit, mais on l'avait déjà dit quand on l'avait présenté la première fois, en fait ça pourrait être une application mobile, quoi, tout simplement. C'est-à-dire que t'as pas besoin d'avoir ce boîtier qui est très joli, qui est très mignon, qui est très gadget et tout ce que tu veux, mais en fait tu peux faire une application qui va te proposer exactement la même chose, et c'est probablement ce qu'ils auraient dû faire, mais ils auraient beaucoup moins fait parler d'eux, c'est tout le problème.
Je les achève ou pas là, parce que, visiblement c'est
déjà là
j'ai
ils ont un sacré coup derrière la nuque,
voilà,
le
petit coup de qui va bien,
le lapin il est pas en forme.
Bon, allez, je sors je sors le fait-tout. En fait, c'est hier, en fait, avant-hier, non, c'est avant-hier, c'est mardi. Il y a un site US, en fait, qui a découvert que, en fait, l'application du Rabbit, c'est un APK. Donc, les gars, ils se sont amusés à l'installer sur leur téléphone Android, un Pixel, un 6A.
Un vieux, en plus.
Un vieux Pixel 6A, et ça marche très bien. Donc, voilà. Donc, en fait, les gars, ils ont fait une appli mobile pour un assistant l'instant, il y a. Alors, ouais. Je pense qu'après, techniquement, c'est normal, en fait, que... Quoi, c'est normal que ce soit un APK, parce que je pense que la boîte a dû se dire, bon, voilà, il y a notre assistant, mais si on se foire, c'est quand même pas mal de pouvoir le mettre sur un téléphone, quoi.
C'est ça.
Voilà, je pense que ça a été développé comme
ouais,
ça.
Ouais, et puis je pense qu'il y avait vraiment ce truc... Je me souviens, alors j'ai plus la citation exacte en tête, donc je vais probablement déformer les propos du créateur de cette start-up, mais on lui avait posé la question, justement, quand il a présenté l'objet pour la première fois, en lui disant, mais pourquoi vous n'avez pas juste fait une application mobile? Et il a expliqué concrètement, bah non, en fait, si on veut de la visibilité, il faut qu'on ait ce petit produit hardware, en fait. Si tu sors une appli mobile qui fait ça, bah c'est une IA parmi 50 IA, et donc du coup, personne ne va parler de nous. Mais je pense que le but du jeu, c'était vraiment de sortir un petit produit pour se faire remarquer, et pour ensuite, pourquoi pas, revendre sa technologie à un fabricant de smartphone, ou enfin, tu vois, ça aurait pu être
Apple,
ça la logique.
Par exemple, qui est un peu la traîne en termes d'IA. Bon, on rachète cette start-up, ça nous permet de gagner quelques mois, quoi.
C'est
en fait.
Exactement ça. Et d'autant que, parce que là, on a beaucoup tapé dessus, mais il y a des trucs qui fonctionnent quand même. Ceux qui l'ont testé disent, par exemple, il y a une petite caméra à l'intérieur, donc pour analyser ton environnement, ouais. Et tu la pointes devant toi et tu lui demandes où est-ce que je me trouve, par exemple, il va analyser, je sais pas, la skyline de New York, il va comprendre quels sont les bâtiments, il va te dire, bah voilà, t'es à New York, à tel endroit, etc. Si tu lui, si tu lui fais prendre en photo le plat que t'es en train de manger, il va te donner le nombre de calories, enfin une estimation. Ça fonctionne pas trop mal, si tu veux. Il y a des bonnes idées, il y a vraiment du potentiel, mais ça sert à rien d'avoir cet objet, quoi.
Ouais.
Tu vas pas payer 200$ parce que c'est le prix de l'appareil. T'as pas besoin de payer un abonnement en plus, contrairement à l'AI Pins, qui est déjà ça. Et puis ça coûte pas 700 non plus.
C'est
en tout cas, pour un truc qui est censé remplacer largement ton smartphone, clairement pas. Personne va remplacer son smartphone.
Les testeurs aussi sont tous d'accord pour dire que l'écran aussi est pas terrible. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, là, ce qu'on voit sur les vidéos, l'écran il a l'air super. En fait, c'est un écran TFT.
TFT, donc
ouais,
bien sûr.
Ouais, donc en fait, ça date un petit peu. C'est dommage. En fait, il est pas tactile, alors que techniquement, il est tactile. Parce qu'en fait, ils veulent que Rabbit veut que globalement les utilisateurs utilisent la molette. Et qu'effectivement, il y a beaucoup d'utilisateurs frustrés qui disent, ben ouais, ça aurait été quand même pas mal de pouvoir taper sur l'écran des trucs où de temps en temps, t'as pas le réflexe d'aller sur la molette.
Bah, d'autant qu'en termes d'ergonomie, ça a pas été forcément pensé jusqu'au bout. Parce qu'il y a des mecs qui disent, par exemple, ils ont essayé de commander, je sais plus, sur DoorDash, un truc genre Uber Eats.
De la bouffe, ouais, c'est de l'enfer.
Donc, il commande son plat, le gars. Enfin, en gros, tu dis, je veux commander dans tel restaurant, donc il te montre le menu. Sauf qu'avec la molette, tu peux pas défiler. Donc, t'as le choix entre trois plats, quoi. Alors que normalement, t'en as 25.
Mon Dieu.
Donc, tu peux pas tout voir. Ce qui là aussi est frustrant. Bon, après, tu peux dire, c'est des erreurs de jeunesse.
Il y aura
des
mises à jour
tu vois,
qui vont régler le problème.
Sans enterrer. Mais bon, moi, je pense quand même que voilà, ça va finir. Ouais, ça va faire partie du musée de la tech, tu vois. On ressortira dans 15 ans. Tu te souviens, le Rabbit, là, ce truc était peut-être un peu. C'est collector, ouais, exactement. Ouais, gardez-le précieusement, ne l'ouvrez pas.
Peut-être que dans des soirées déguisement, dans quelques mois, on pourra voir les Alpine là, et le Rabbit accroché, tu vois, un autre truc, en disant, regardez, je suis hyper connecté, les gars, j'ai les deux produits.
Et le Zune dans la poche arrière.
Et le Zune dans la poche arrière. Le Zune, pétard. Ça, c'était quand même un sacré truc. Hein. C'était la réponse de Microsoft à l'iPod. Hein.
Ouais.
Et ça a été un four total.
Ça, c'est collector. Je sais pas combien ça se vend maintenant. Tiens, je vais regarder ça, un Zune. J'en ai pas. Zune, mais... À mon avis, parce qu'ils ont
pas vendu beaucoup. En France.
Non.
C'était pas sorti en France. C'était sorti aux US. Aux US et en Angleterre, je crois.
Ouais. Je me demande s'ils ont pas. Si c'est pas arrivé jusqu'à chez nous.
C'est bon? Tiens, on va creuser.
Ouais.
On change de sujet pour parler d'Apple. Et pas forcément en bien. Parce que, il y a une enquête qui a été menée par Bloomberg, qui est très intéressante, sur tout le discours de l'environnement chez Apple, qui, vous le savez, à chaque fois qu'on assiste à une keynote, est hyper importante. Hein, il y a toujours 10 minutes, un quart d'heure d'environnement dédié au tout début à l'environnement. Voilà,
c'est un peu fatigant même.
Voilà, le RSE, etc. Voilà, on fait tourner des éoliennes pour fabriquer des iPhones. Ne nous demandez pas comment on fait, mais on y arrive, hein, c'est comme ça.
Mais tu te souviens de la dernière keynote là, pour les iPhone 15, où ils ont carrément mis en scène Mère Nature qui arrive dans les bureaux d'Apple et qui discute avec Tim Cook et qui lui demande des comptes, et là j'en étais, mais attends, mais on est où là?
On est là de nos iPhones en plein air.
C'est des iPhones bio,
attention.
Mais alors ce qui est rigolo, c'est que justement, puisque tu fais référence à cette vidéo, ça serait intéressant que Mère Nature se penche sur cette enquête de Bloomberg et qu'elle aille dans le bureau de Tim Cook pour pour taper un peu de, du poing sur la table, parce que c'est pas joli joli. Là, on parle du recyclage des iPhones. Vous savez qu'un iPhone, au bout d'un moment, quand il est en fin de vie, en quelque sorte, il y a deux solutions. Soit il part au démontage pour récupérer en fait ses pièces maîtresses qui après sont fondues, etc., etc. Il y a plein de métaux rares dans les smartphones, d'une manière générale, et dans les iPhones. Soit il est reconditionné, c'est-à-dire qu'on change un peu la batterie, on change les aspects cosmétiques, etc., et on lui offre une deuxième vie ou une troisième vie. On pensait qu'il y avait ces deux scénarios. Eh bien, il en existe un troisième qui est beaucoup moins reluisant, qui est piloté par Apple, Anthony, et qui est la destruction simple et massive.
C'est l'euthanasie des iPhones.
C'est l'euthanasie violente, on va dire.
Ah ouais, non, mais
c'est le steak tartare de l'iPhone.
Le steak tartare. Alors, ils avaient une expression, parce qu'ils ont un sous-traitant qui fait ça pour eux. Ils disent le muesli d'iPhone. J'aime beaucoup.
Il y a on vous déconseille au petit déjeuner. Hein.
Ah non, c'est pas bon.
C'est pas bon.
Mais ça croustille quand même.
Ça croustille bien, mais ça reste entre les dents.
Mais ça croustille qu'une fois. Celui qui mange. Après, vous croustillez.
C'est un muesli assez premium. En fait, ils ont un sous-traitant qui s'appelle Jeep, qui fait ça pour eux et auquel donc ils refourguent en fait des iPhones. Alors ce qui est intéressant en fait, c'est effectivement ce décalage entre le discours public et ce qu'ils font en réalité. Le discours public, c'est de dire on essaye au maximum de recycler les iPhones. Ils ont fait énormément de communication autour de leurs robots, ouais, le robot Daisy.
Et Liam,
voilà, Liam. Robots, ouais. Donc ces robots, t'as des vidéos extraordinaires d'ailleurs où tu les vois qui sont en train de désosser un iPhone extrêmement rapidement, en retirer les métaux rares. Tu dis waouh, génial. Tiens, s'ils font ça avec tous les iPhones, c'est extraordinaire. Sauf qu'en fait, ça c'est une toute petite partie. C'est de l'ordre de 1 million d'iPhones par an et par robot, ce qui est déjà pas mal pour un robot, mais sauf qu'ils en ont pas beaucoup en fait. Et 1 million, c'est la production. Enfin, c'est ce qu'a Apple doit vendre en deux jours, tu vois, donc c'est vraiment rien du tout. Et le reste, alors effectivement, tu as tous les smartphones qui récupèrent dans leur fameux programme de trade-in là, où tu rends ton vieil iPhone et tu achètes un nouvel iPhone pour un petit peu moins cher.
Voilà.
Et en fait, le truc, c'est que Apple, alors qui nous dit on aime bien faire du reconditionné, recycler et tout ça, et ben la réalité, c'est que très souvent, la majorité du temps, eh ben, ils finissent par broyer les iPhones. Ils préfèrent les broyer, les détruire complètement. Ils font appel à ce sous-traitant-là, qui a des immenses machines. Il y a une pièce, donc la pièce du Mesli, là, où on détruit les iPhones, mais alors on en fait vraiment, c'est steak tartare, quoi. Il n'en reste absolument rien. On récupère quasiment rien. Et donc, en réalité, bah, c'est ça. La fin d'un iPhone, c'est ça. Et pourquoi est-ce qu'on en a parlé? Parce que cette entreprise, Jeep, Apple s'est rendu compte lors d'un audit interne qu'en réalité, elle détournait des iPhones. C'est-à-dire qu'il y a au moins 100 000 iPhones qui avaient été confiés. Ah ouais, mais c'était pas mal pour être détruits. Et en fait, les mecs se sont dit, bah non, mais c'est dommage, c'est des iPhones, ils fonctionnent, on va les garder, puis on les revend en Chine. Et donc, il y a 100 000 iPhones qui se sont retrouvés comme ça sur le marché secondaire. Donc, Apple les a attaqués en justice. L'action se termine là en ce moment et ça n'a rien donné. Et donc, Apple, en gros, essaye de faire en sorte qu'on n'en parle pas trop parce que ça montre la réalité la deuxième vie fantasmée de l'iPhone.
C'est un peu l'aspect sombre qui va en fait à contre-courant du discours officiel.
Bah oui.
Parce que, pour compléter ce que tu dis, c'est que qu'on broie un iPhone 6 ou un 6S ou un 6 Plus, enfin des téléphones qui ont quasi 10 ans, au bout d'un moment, c'est vrai que voilà, tu vois, c'est des téléphones qui technologiquement sont dépassés, il n'y a plus rien à faire, quoi, tu vois. Mais le problème, là, c'est que, en fait, ils ont broyé des téléphones qui étaient beaucoup plus récents et qui, en fait, pouvaient espérer avoir une seconde vie. C'est ça qu'on reproche, en fait, à Évidemment. Apple. C'est que je crois qu'il y a des exemples d'iPhone 12 qui étaient broyés, en fait. Et
c'est fou.
C'est scandaleux, tu vois, parce que, on vit dans un monde où il y a plein de gens qui sont pas connectés, n'ont pas les moyens de s'offrir des téléphones, etc.
Même pour les pièces détachées. Juste pour les pièces détachées. C'est récupérer les pièces détachées pour pouvoir réparer un téléphone.
Mais je pense que ça leur coûte plus cher à Apple de démonter les téléphones avec leur robot Daisy, là, alors qu'ils nous montrent quand on en a envie. Ça, c'est un peu le côté un peu com et marketing, tu vois.
Greenwashing, hein.
C'est
la définition du greenwashing.
Et ça leur coûte moins cher de détruire des iPhones, en fait. Et puis, après, on est vraiment en mauvaise langue, tout iPhone détruit, ça fait un iPhone en moins qui existe. Et donc, ça fait potentiellement un iPhone en plus que quelqu'un peut acheter.
Évidemment.
Bah oui, je pense que l'objectif. Sincèrement, sinon, tu files tes iPhones à recycler à des boîtes qui font ça très bien. Il y en a plein sur le marché. Ils récupèrent toutes les pièces détachées. Hein. C'est comme si vous voyez les casses d'auto, etc. et tout, pour les voitures. Pareil, maintenant, il y en a qui sont spécialisés sur les pièces détachées de deuxième vie. En fait, voilà, il y a des boîtes qui sont vraiment spécialisées là-dessus. On peut trouver des pare-chocs, des rétroviseurs, des moteurs, ce qu'on veut. On pourrait avoir la même chose avec des téléphones. et pouvoir remettre nos téléphones en état assez facilement et les faire durer un peu plus. On va pas, le but, c'est pas de durer 10 ans avec un téléphone, mais c'est au moins que globalement, le téléphone, quand il a 3 ans, il est encore dans le coup. Quoi. Ouais. Si tu fais tomber, si tu casses un truc, si ton enfant le, voilà, fait une bêtise avec, tu peux au moins te dire je peux le récupérer, le réparer avec des pièces détachées. Et des pièces détachées, globalement, je sais que c'est du Apple.
Ouais, d'autant qu'Apple que fait des efforts, justement. Ouais. Il y a récemment, là, ils ont ouvert. Enfin, ils ont changé leur politique de remplacement de pièces détachées, on en avait parlé.
Oui, c'est plutôt cool. Tu peux les toi-même aussi. Oui, mais c'est justement ça, moi, que je trouve un peu dommageable. C'est-à-dire que, en gros, là, on tombe un peu sur Apple, bon, parce qu'il y a cette enquête sur eux, mais ça aurait été...
Tous les autres le font, hein.
Oui,
Enfin, là, parce que c'est Apple qui est visé.
Non, mais tous les autres le font, voilà. Mais le problème, c'est que les autres donnent peut-être moins de grandes leçons sur l'écologie. C'est aussi ça, le truc. Moi, c'est toujours ce qui m'énerve. C'est, si tu veux, c'est le décalage entre les paroles
aussi et les grandes leçons d'écologie et d'environnement.
Ouais, autant, je sais pas.
Franchement, quand tu regardes, ouais.
Mais peut-être moins chez les Chinois, tu vois. J'ai pas le souvenir que Xiaomi nous ait
non,
fait
non,
tu
non,
vois,
les Chinois,
des grands trucs. Alors après, non, mais on va pas se mentir non plus. Ça fait partie du jeu. Toutes les grandes entreprises aujourd'hui ont un discours RSE, environnemental, parce que aussi ça vend. C'est important de le mettre en avant. On n'est pas des perdreaux de l'année. Donc on sait bien comment ça fonctionne. Mais là, quand on se rend compte du décalage, parce que vraiment, Apple, ils en font quand même des caisses. Moi, je l'avais dit quand on avait parlé de la keynote de l'iPhone 15. Moi, c'est le truc qui m'avait un peu gêné. Les téléphones sont géniaux, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que vraiment, c'est too much, quoi. Le truc de merdature, le sketch. Oui, et puis nos emballages, nos trucs. Ah, on enlève les chargeurs, comme ça, ça fait moins de pollution. Et à côté de ça, tu te rends compte qu'ils broient des centaines de milliers de téléphones. Bon, bah, c'est quand même un peu dommage, quoi.
Ouais.
Voilà. Ils ont un objectif de récupérer 100% du cobalt des circuits imprimés de leurs téléphones d'ici à 2025. Je pense qu'ils arriveront, mais en faisant du muesli, quoi.
Ouais, mais dans le muesli, t'as pas que des bons trucs, quoi. En fait,
Non, mais en plus, on pourrait récupérer des vis, il y a plein de trucs à récupérer. Ouais, non, tu vois tout ce qu'il y a à récupérer.
Mais ça va être intéressant de voir comment Apple va réagir à tout ça, s'ils vont communiquer là-dessus.
Ouais, je pense pas. Mais tu penses ouais,
je sais pas.
Ils n'ont pas l'habitude de communiquer sur
non,
quoi
mais
que ce soit.
Ils vont quand même bouger parce que c'est quand même une mauvaise image de se dire que. En plus, ils ont les technos, ce qu'on disait tout à l'heure, des Iliam, etc. Mais il en faut peut-être plus, tout.
Ouais, c'est sûr.
Peut-être mettre le paquet là-dessus.
Je pense que ça coûte très cher, surtout.
Ça coûte cher, mais bon, d'un côté, bah, c'est un geste pour la planète. Hein, même. Le problème, voilà. Et quand t'es le numéro 1. C'était quand même un peu une obligation de...
Ouais, mais la réalité, on a déjà eu l'occasion d'en parler, mais s'ils voulaient faire un geste pour la planète, ils sortiraient pas un iPhone tous les ans. Vu les innovations qu'il y a d'un iPhone sur l'autre, ils feraient un iPhone tous les deux ans, et puis voilà. Mais c'est pas évidemment...
Surtout que j'ai l'impression que c'est plus facile à fabriquer qu'à...
Ouais. Non, mais c'est ça, tu vois.
Et puis rappelons-le, il n'y a pas qu'Apple, hein, y a Bose qui visait aussi par cette enquête. Enfin, il y a d'autres constructeurs d'appareils, hein, voilà, parce que c'est... C'est un peu la dure loi de l'industrie aujourd'hui, mais c'est dommageable, surtout quand c'est des appareils qui sont quasi neufs,
utilisables.
En tout cas en bon état d'utilisation et qui pourraient évidemment rendre service à plein de gens qui n'ont pas les moyens de pouvoir s'en offrir. Ce de quoi je me mêle est terminé. Quel plaisir de passer cette petite heure en votre compagnie. J'espère que, tout comme nous, vous avez apprécié tout cela. Merci Anthony.
Merci à tous les deux.
Anthony Morel, donc journaliste à la rédaction de BFM Business, et Nicolas Guyot.
Merci François, merci Anthony.
Clubic.com pour retrouver Nicolas et toute son équipe, bien sûr. Petit module bonus qui arrive, bien évidemment. Et on se retrouve, en tous les cas, sur BFM Business et sur la chaîne YouTube la semaine prochaine avec une petite surprise. On vous en dira plus dans quelques jours. Salut à tous et merci de nous suivre en tout cas.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.